avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, le portable des adolescents. Ils ont entre 12 et 18 ans, voire moins, et toute leur vie est désormais dans ce petit boîtier. Alors que font-ils au juste? Avec qui parlent-ils? Que montrent-ils d'eux-mêmes? Jusqu'à quel point leur journée et leur nuit sont rythmées par les alertes, les jeux, les vidéos, les photos, les fils de discussion? Que raconte ce petit monde virtuel qui ne leur laisse plus aucun temps mort? Deux journalistes ont enquêté sur cette vie secrète des jeunes, Céline Cabour et Boris Manantier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes tous les deux journalistes à l'hebdomadaire L'Obs. Vous publiez Portable, la face cachée des ados. On se dit que tout cela va être bien creux et en fait, on y découvre de l'humour, une quête aussi assez existentielle, hein, du qui suis-je à travers ce portable, mais aussi, c'est vrai, une dépendance phénoménale. Vous-même, est-ce que vous avez été surpris par vos intrusions dans ces téléphones portables, Boris?
Complètement. Moi, je dirais, je me pensais plutôt au point sur toutes les applis et tous les réseaux sociaux. Et je me suis pris un coup de vieux.
Vous avez quel âge?
J'ai 29 ans. Ouais. Je pensais être au point
Vous n'êtes plus un ado.
Je suis plus un ado. Je pensais être au point sur tous les réseaux sociaux. Et en fait, les adolescents m'ont décrit que j'avais une pratique de vieux. D'accord. Sur les réseaux sociaux. J'avais un Facebook de vieux, notamment.
Céline Cabour.
Moi, par chance, je suis beaucoup plus vieille. J'ai 44 ans, mais j'ai deux enfants. Donc, ça m'a un peu aidée dans cette enquête.
Vous avez le code des portables de vos enfants?
Est-ce que j'ai le code?
Oui, pour rentrer dedans.
Non, je rentre jamais. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un fils de 14 ans a fait naître chez moi cette envie de savoir ce qu'il y faisait et combien de temps il y passait. Mais sans justement rentrer dans le téléphone de manière intrusive.
C'est ça, parce que tout d'un coup, vous trouviez une mine déconfite ou bizarre.
Non, il y avait un jeu de pouces permanent qui m'intriguait beaucoup. Il y avait des petits flashs de lumière qui me déconcentrait moi-même, des petits bruits, parce que ça émet des sons, ces choses-là, et aussi plutôt des sourires. Souvent, il est sur son téléphone et il sourit de manière un peu romantique. Ouais. Et du coup,
tout ce que vous lui avez dit.
Non, pas du tout, il ne m'écoute pas. Et du coup, j'essaye d'imaginer ce qu'il échange.
Voilà. Alors, on ne rentre pas dans les téléphones portables des ados comme ça. Hein. Il faut du doigté, de la persuasion. Vous avez rencontré beaucoup d'adolescents. Des jeunes que vous ne connaissiez pas, évidemment. C'est plus simple, hein, il vaut mieux pour eux.
D'un peu partout.
Et vous avez vu ce que les adultes voient rarement, finalement. Hein. C'était pour comprendre. Alors, on trouve aussi des conseils aux parents et aux enseignants dans votre livre. Et bien sûr, quant à vous, les voisins et les voisines, que vous soyez parents ou grands frères, grandes sœurs, éducateurs, est-ce que vous surveillez déjà le portable des plus jeunes? Appelez-nous si vous savez quelque chose sur cette vie secrète. Et appelez-nous aussi si vous êtes paumé, perplexe. On a de l'info et on peut vous dire que c'est du lourd. 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone du standard. Camille attend vos appels. Appelez-nous dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission. Je vous lis quelques messages qui sont postés sur les réseaux sociaux de nos auditeurs. Laurent, qui est à Libreville au Gabon, nous dit « Moi, je préfère ne pas savoir ce qu'il y a dans le portable des ados. Ces enfants-là sont en avance sur leurs parents d'environ 100 ans. » Ouais, c'est assez bien vu. Guillaume est à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Dis-moi quel téléphone a ton ado, je te dirai ce qu'il contient. Dans tous les cas, les ados sont accros. Ils ont plein d'applis, font des vidéos, des groupes WhatsApp et ils s'envoient des sextos. Ouais, alors on parlera bien sûr du sexe et du porno dans ces fameux téléphones portables. Conclusion de cet internaute à Dakar, dans les smartphones des ados, il y a un peu de tout et surtout du n'importe quoi. Ouais, sévère, non, pour vous, ou pas?
C'est dire n'importe quoi, c'est un peu dur, je
non,
trouve.
Non, ouais, moi, je suis pas d'accord.
Il y a une vraie pratique, c'est des adolescents.
Ouais.
Et l'un des objectifs principaux de tout ça, c'est créer du lien, de la conversation avec ses pairs.
Et puis surtout, vous avez affiné, vous, dans votre enquête sur ce fameux n'importe quoi.
On voulait pas être dans le jugement, en fait. On voulait pas faire un livre d'adultes qui jugent et qui les prend pour des...
Vous décrivez ce qu'il y a dans le téléphone.
Des geeks et cervelés. Ouais. Et franchement, moi, j'ai découvert des choses sociologiquement intéressantes sur la création d'un nouveau langage, sur Non, c'est pas que du...
Alors René est à Lomé, au Togo, et il nous dit, même s'il n'est pas du tout commode aux parents de fouiller dans le téléphone de leur enfant, il faut un minimum de contrôle. Bien sûr, nous allons en débattre. Amizi n'est pas du tout d'accord à Goma. Il ne faut pas chercher à tout contrôler car la vie privée est un droit fondamental. Même les adultes, d'ailleurs, ont leurs secrets dans leur téléphone. Oui, à commencer par les adultes, justement. Blaise, à Yaoundé, au Cameroun. Aujourd'hui, les enfants sont trop malins. Ils utilisent leur téléphone sans que les parents ne soient au courant de rien. Oui, y compris les profs, hein, d'ailleurs. Les ados arrivent à suivre toute une discussion sur leur téléphone en regardant dans la manche de leur chandail, en plein cours de maths.
Évidemment.
En trichant. C'est ça. Appelez-nous, les voisins et les voisines. Qu'y a-t-il dans le téléphone de portable de vos adolescents? 33 1 84 22 71 71.
Milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Mais tout de suite, rencontre avec un pré-adolescent en région parisienne. Maxence, 10 ans, est l'heureux propriétaire d'un smartphone. Il a reçu notre reporter, Alice Milo, avec ses parents.
Moi, je l'ai depuis la fin du CE2.
Ton premier portable, t'avais 8 ans.
Oui. J'ai demandé à mes parents parce que je voulais absolument avoir un téléphone. Et à la fin, ils ont cédé, et donc voilà.
Pourquoi c'était aussi important pour toi d'avoir un téléphone?
Parce que tous mes copains jouaient beaucoup sur le téléphone des parents et mes parents, ils ont jamais été trop d'accord pour jouer à des jeux sur leur téléphone. Donc j'ai demandé un téléphone et ils m'ont donné leur vieux téléphone. Bientôt, je vais m'acheter un nouveau téléphone ou je sais pas. Enfin, j'en ai un qui m'attend si j'ai des bonnes notes.
Ah, c'est la carotte alors.
Voilà.
Il est tout le temps dans ta main?
Ou dans ma poche ou dans ma main. C'est un peu un de mes meilleurs amis. Je l'ai toujours avec moi, je le quitte pratiquement jamais, donc c'est un peu mon meilleur ami.
À quoi il te sert en fait ce téléphone?
Envoyer des messages, comme ça je communique avec mes amis. Si j'ai pas mes cours, je peux leur demander et tout et tout. Jouer beaucoup à des jeux, à un jeu surtout en particulier, c'est Clash Royale, parce que mon père et mon frère jouent, donc on se connecte.
Et vous jouez tous les trois ensemble?
Voilà. Pour l'instant j'ai pas le droit aux réseaux sociaux, mais Instagram, Snapchat, tout ça.
Alors pourquoi pour le moment t'as pas ça?
Parce que mes parents disent que c'est dangereux. Je suis en 6e, donc c'est un peu tôt. Ils disent, mais peut-être l'année prochaine. Les 95% de ma classe l'ont, sauf ceux qui n'ont pas de téléphone. Ça paraît bizarre, mais il y a 5% de ma classe qui ont des vieux téléphones à 10 €. Et c'est les 5 qui n'ont pas d'amis. Dans ma classe, c'est un constat. Tous ceux qui ont des amis, ils ont des super téléphones. Ceux qui n'ont pas d'amis, ils ont des vieux téléphones. Tout le monde me dit, t'as pas Instagram. Sur Snapchat, Instagram, ce qui est bien, c'est que tu peux faire des groupes. Et il y a le groupe de ma classe, et on est en 6e E. Il n'y a que ceux de ma classe, donc...
Et alors toi, qu'est-ce que t'en penses de ça?
Je me trouve assez mature pour ça.
Et tu vas t'y prendre comment pour négocier auprès de tes parents?
En essayant d'être sage, même si ça va être compliqué.
En effet, à 8 ans, comme son petit frère, il a eu le droit d'avoir un portable sans carte SIM parce que les copains récupéraient les vieux portables des parents aussi, pareil, sans carte SIM pour écouter de la musique. Aller sur Internet, c'est le début un peu d'une petite liberté sous contrôle. Très restreint comme utilisation. En début de CM2, on a pris une carte SIM pour Maxence, puisque régulièrement le soir, il rentrait avec son frère à 18h. Et là, pour le coup, on devait pouvoir, si la nounou pouvait pas venir, comme c'était une étudiante, des fois elle était bloquée dans les transports, ou elle pouvait pas venir pour une raison X ou Y. On voulait pouvoir l'informer avant qu'il ne parte de l'école, qu'il n'y avait pas la babysitter qui était là, et qu'il rentre avec son petit frère. Et c'est hyper important dans le sens où aujourd'hui, il a un téléphone portable, il est donc joignable, il doit donc répondre.
Il n'y aurait pas eu l'histoire de rentrer seul à la maison, il n'y aurait pas eu de portable tout de suite?
Pas tout de suite, je pense qu'on aurait attendu un petit peu. On aurait attendu 6 mois, 8 mois de plus.
Donc ils ont un téléphone qui leur permet de téléphoner, d'envoyer des SMS, des textos, et puis les réseaux sociaux, pour l'instant, on résiste. Et on lui a expliqué que la maturité était importante pour pouvoir résister à tout ce qui s'y passe, que ce soit de la propagande djihadiste ou de la pédophilie. On a eu des discussions très ouvertes avec eux deux pour leur expliquer les dangers et leur expliquer pourquoi on ne voulait pas qu'ils y aient accès maintenant. À tel point que Martin, le deuxième, qui était présent lorsqu'on a eu ces conversations avec son frère, nous a dit « Oulala, moi jamais j'aurai de réseaux sociaux, c'est beaucoup trop dangereux ». On sait qu'il changera d'avis très prochainement, mais néanmoins, il a pris conscience des dangers associés à ça. Un des premiers réflexes a été de sa part de nous dire « Mais est-ce que je ne vais pas me faire racketter parce que je vais avoir un téléphone ?» Donc il y a aussi un enjeu de sécurité physique, au-delà même des accès Internet, etc.
C'est ça, vous avez besoin d'avoir un contrôle dessus?
Complètement. D'ailleurs, Maxence est au courant que régulièrement, on prend son téléphone, on regarde les SMS, on regarde les mails, on regarde les appels pour vérifier qu'il n'y ait quand même pas d'abus.
Alors, je sais qu'il supprime des SMS, bien évidemment, mais c'est des choses, bon, voilà, c'est des choses d'enfants de son âge. Mais on va toujours vérifier pour être sûr que tout va bien.
Vous faites des contrôles inopinés, alors ?
Voilà, ça peut être 4 fois par semaine ou pas du tout pendant 15 jours. Il n'y a vraiment pas de règle. C'est quand on tombe dessus, bah, tiens, je vais vérifier, puis voilà.
Les règles qu'il y a, c'est qu'il n'a pas le droit de changer son mot de passe, voilà, sans nous le dire, pour qu'on puisse toujours avoir accès au téléphone.
Le fait que vous contrôliez le contenu de son téléphone, vous vous êtes donné un âge limite ?
Pas du tout.
Je pense qu'on en parlera avec lui. Peut-être qu'à un moment donné, on estimera normal qu'il ait son jardin secret et lui nous le fera sentir. Ce qui est important, et on y tient, c'est de ne pas le faire dans son dos. Donc c'est très clair pour lui, il le sait. Et quand on le fait, on lui dit qu'on le fait. Donc on ne lui cache jamais, on ne veut pas le surprendre, on ne veut pas le piéger.
Après, les parents qui pensent qu'on a tort, très bien. Mais je changerai pas d'avis.
Mais certains nous trouvent trop sévères, d'autres nous trouvent beaucoup trop laxistes. Donc peut-être qu'on se situe au milieu, dans les parents qu'on fréquente et dans les enfants qu'on a dans notre entourage. Il y a vraiment différentes façons d'aborder ces choses-là. C'est toujours très difficile. On est tout le temps en train de se poser les questions, en se demandant, ma femme et moi, est-ce qu'on a bien fait ? Est-ce qu'on fait suffisamment ? Est-ce qu'on le fait trop ? Quelle liberté on lui laisse et qu'est-ce qu'on devrait ne pas lui laisser, justement ?
Voilà, alors 10 ans pour un premier portable sont les prémices de la vie secrète des adolescents.
10 ans, c'est jeune. Là, on avait l'exemple d'un enfant qui l'avait en CE2. CE2, c'est tôt. Nous, ce qu'on a constaté...
À 8 ans.
Il avait eu tôt.
Là, en général, c'est l'entrée en 6e. Il se trouve qu'il est en avance.
Dans l'enquête, c'était plutôt l'entrée en 6e qui est le marqueur du premier portable. Là, c'est vrai que c'est assez tôt. C'est vrai que souvent, c'est assez commun avec cet enfant, c'est pour les jeux vidéo. Il y a beaucoup une demande d'un premier portable pour jouer au jeu. Clash Royale est le jeu qui cartonne en ce moment, auquel ils jouent. Mmh. Pas tous, mais beaucoup. Mais c'est vrai que le CE2, c'était un peu tôt.
Ceci dit, aux États-Unis, vous citez cette enquête, 7 ans, le premier portable. Hein.
C'est une moyenne, ouais, de 7 ans. Mmh.
Alors, pas de téléphone, pas d'amis. Vous avez entendu le témoignage de Maxence ?
Bon. Oui, je dirais qu'ils commencent par les jeux vidéo quand ils sont très jeunes. Ils commencent à jouer sur ces téléphones. Mais dès qu'ils ont des groupes d'amis et qu'ils commencent à avoir aussi, à sociabiliser, à avoir des sphères d'influence, à vouloir gagner de la popularité, ce qui aujourd'hui est un mot très important dans les collèges, cette popularité, maintenant, elle est indexée sur le numérique, sur les likes, sur tous les commentaires. Et pas de téléphone, pas d'amis, c'est ce qu'on a pu vérifier.
Bah, surtout les chiffres, hein, vous citez plusieurs chiffres, 93% des 12-17 ans ont un téléphone portable, 42% des filles de 15-18 ans restent éveillées la nuit pour discuter. Donc voilà.
C'est vraiment la suite logique de l'adolescence même. Notre adolescence, nous, moi j'avais les dernières Nike, ça permettait d'être cool dans le bahut. Nos parents, c'était peut-être le manteau en cuir ou la mobylette. Là, maintenant, c'est en plus le dernier portable. Effectivement, ça on l'a constaté, avoir le dernier iPhone est tout de suite gage d'une popularité. Ne pas avoir de téléphone peut signifier une mise à l'écart par les pairs. C'est pour ça que beaucoup le demandent. C'est pour pouvoir s'intégrer dans le groupe.
Ouais. Facilement. Alors, sauf que là, le téléphone rythme complètement les journées. Quelle est la journée type d'un adolescent sur son portable ? D'abord, c'est une journée très longue, cette journée que vous décrivez dans votre enquête.
Alors, oui, la journée commence avec l'arrivée du facteur. C'est-à-dire qu'on se réveille. Si on a éteint son téléphone, ce qui n'est pas toujours le cas, et si il n'est pas dans la chambre, ce qui n'est pas non plus toujours le cas, on va le chercher et on relève les notifications. C'est-à-dire qu'on voit tout le courrier qui est tombé pendant la nuit. Ça, c'est le réflexe majeur. Puis en plus, arrive le petit déjeuner. Souvent, au petit déjeuner, on s'en sert, soit pour jouer un peu dans le cas des garçons, soit pour...
Regarder quelques vidéos sur YouTube.
Regarder des vidéos sur YouTube.
Aménager un peu son temps devant le bol de céréales pour s'occuper, en fait. On voit que tout au long de la journée, on peut citer d'autres exemples, dès qu'il y a 5 minutes de temps mort, à un arrêt de bus, on arrive un peu tôt au bahut ou des choses comme ça, c'est un temps qui va être tout de suite comblé par le téléphone. Un petit jeu, une petite vidéo, échange, de la musique, effectivement.
Le trajet du...
Et plusieurs fils de discussion. C'est-à-dire que c'est pas seulement c'est plus seulement Facebook qui est au centre de la vie des adolescents.
C'est quelque chose je les ai trouvés très organisés, beaucoup plus que dans leurs agendas et dans leurs cartables. C'est-à-dire que Ils ont des usages très particuliers pour chaque application et même une espèce d'univers dédié. C'est-à-dire que Messenger, qui est lié à Facebook, sert beaucoup pour la sphère scolaire. Ils y ont des groupes de travail, ils font des exposés, ils s'envoient des résultats de contrôle.
Oui, donc, voir le contrôle de la classe d'à côté voilà. deux jours avant. Pour, voilà. Donc ça, c'était Messenger, pour le prof, au cas où il aurait voulu donner le même contrôle.
C'est
non,
ça.
Non, il vaut mieux pas.
Messenger, c'est pas mal l'école, c'est pas mal aussi la communication avec les amis. WhatsApp sert beaucoup dans les conversations avec les amis ou la famille à l'étranger. Ça, c'est une appli qui sert beaucoup à ça. Instagram, c'est le monde des bisounours où ils postent les photos où ils sont les plus jolis. Les filles sont dans les tenues les plus coquettes, ont le meilleur maquillage. C'est, ouais, c'est vraiment la vitrine, la vitrine factice d'un monde meilleur, d'un monde idéal. Et puis Snapchat, c'est leur appli numéro un parce qu'elle est ludique, parce que les parents n'y comprennent rien. Et parce qu'ils peuvent y bidouiller toutes leurs photos avec des filtres et y apposer des bandeaux de commentaires. Donc voilà.
Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'ils maîtrisent les codes de chaque appli. Chaque appli a un peu ses codes. Céline le disait, sur Instagram par exemple, on est un peu plus posé, un peu plus beau. Alors que sur Snapchat, on se livre plus facilement à des jeux, à des grimaces, dans une relation très intime. Bon, et ça, tous les codes sont maîtrisés.
Tout ça, ça nous mène jusqu'à quelle heure? Alors, au milieu, quelques interruptions et quelques cours à l'école.
Hein. Oui, mais même à l'école.
Dans la cour de récré, on cherche. On
le portable
est utilisé. On n'a plus de Wi-Fi, mais on s'en sert quand même. Hein. Parce qu'en principe, il n'y a pas de Wi-Fi dans la cour de récré, me semble.
Certains bahuts ont des Wi-Fi.
Alors, s'ils n'ont pas de 3G illimité en fonction des abonnements, etc., ils continuent quand même de prendre des photos.
Ils prennent toujours les selfies pour après les compiler. Et le soir, dès qu'ils rentrent et qu'ils vont avoir l'accès au Wi-Fi de la maison, là, tout va être un peu posté sur principalement la story Snapchat, qui est ce petit journal intime qui est alimenté chaque jour et qui disparaît au bout de 24 heures. On se met en scène un peu comme un journal intime. Et les plus belles photos de la journée vont peut-être arriver sur Instagram.
Y a des copines qui dorment ensemble virtuellement, qui ne peuvent pas s'inviter chez l'une ou chez l'autre. J'ai découvert ça dans votre livre.
Bah, c'est la version numérique des soirées pyjama, en fait. C'est cette idée que, notamment à ces âges-là, pour les filles, moi j'ai quelques vieux souvenirs, vous avez votre meilleure amie et votre meilleure amie vous lui dites tout, vous voulez jamais la quitter, vous lui parlez, autrefois on se parlait avec un téléphone et le fil courait dans le couloir jusqu'au moment où le père ou la mère débranchait le téléphone. Là aujourd'hui oui, elles veulent être ensemble toute la journée parce qu'elles s'aiment,
toute la nuit,
et elles font des nuits blanches FaceTime, c'est-à-dire qu'elles se mettent sur FaceTime, elle laisse le téléphone branché toute la nuit.
Donc l'appli est branchée toute la nuit, y compris quand elles dorment. Chacune de leur côté.
Elles le posent chacune à côté.
Sur l'oreiller. Voilà.
Parfois elles se parlent, parfois non.
Parfois non, elles font leurs activités, mais elles se voient dans la chambre de l'une et de l'autre, et elles sont ensemble en fait.
C'est ce qui est génial avec cette connexion internet dans ce petit appareil, c'est que c'est en plus totalement gratuit.
Alors, il y a des filles qui ne peuvent pas aller en cours si elles ne sont pas concertées via FaceTime ou d'autres applications sur ce qu'elles vont mettre le matin même, sur ce que vont mettre les autres copines.
Ça, un petit selfie. Regarde ma tenue, est-ce que tu valides?
On envoie une photo, on a le temps d'envoyer une photo
avant d'aller en cours.
Et on change la tenue si l'autre dit non, ça va pas du tout.
Oui, ça c'était une pratique qui avait déjà cours avant aussi de se coordonner un petit peu sur les tenues vestimentaires, soit à l'avance, soit par téléphone. Maintenant, ça se fait en quelques secondes avec un selfie sur Snapchat.
C'est vrai que ce qu'on a voulu montrer dans le livre, c'est aussi qu'il y a un certain nombre de comportements qu'on avait, nous, adolescents, et qu'on peut complètement transposer, sauf qu'il y a ce nouvel outil qui donne une visibilité plus grande.
Sauf qu'on ne débranche jamais. Alors vous restez avec nous non plus, on ne débranche pas, parce qu'on a beaucoup de choses à découvrir avec vous. Les voisins, les voisines, appelez-nous pour nous parler des comportements et du contenu des téléphones portables, si vous les connaissez, de vos adolescents, ou de vos petits frères, ou de vos petites sœurs. Notre numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. On vous donne la parole après le flash.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. On discute du portable, la face cachée des ados. C'est le titre de votre livre, Céline Cabour et Boris Mananti. Vous avez rencontré des jeunes de tous milieux qui ont accepté d'ouvrir leur portable pour vous parce que vous aviez envie de comprendre, effectivement, que font-ils toute la journée et une bonne partie de la nuit. De tous milieux, vraiment, hein, c'est bien ça, Céline Cabour.
Oui, vraiment de tous milieux. C'est-à-dire qu'on a de Paris, des quartiers populaires, des quartiers plutôt chics, on a de la banlieue, on a de la campagne, on a de la province, on a du sud, du nord, de l'est, de l'ouest.
Et alors, qu'est-ce qui change entre Mantes-la-Jolie et les quartiers chics de Paris, par exemple ?
Alors, ce qui est amusant, c'est que rien ne change sur le nombre d'applis et le type d'applis. La sociologie semble effacée, c'est-à-dire qu'ils font tous la même chose.
Mais à la même heure, sur les mêmes applis, les mêmes réseaux.
À la même heure, non, parce que ils sont peut-être un peu plus rusés dans certains quartiers, quoique oui, à la même heure. Non, ce qui change, c'est que la sociologie revient après dans les contenus de ce qu'ils postent. Et dans, par exemple, si on regarde les youtubeurs ne sont pas du tout les mêmes quand on est à Mantes-la-Jolie ou quand on est à Paris 17e. Notamment, ça se voit chez les filles pour tout ce qui est tuto de maquillage. Évidemment qu'une Enjoy Phoenix, qui est très populaire sur les réseaux sociaux et qui est une blonde de type une petite américaine, voilà, avec du rose à lèvres, parle plus à la gamine du 17e qu'à celle qui habite Mantes-la-Jolie, qui elle préfère avoir des conseils sur des tresses, sur le maquillage pour peau noire, parce que voilà, ça correspond plus.
Il y a des phénomènes d'identification.
Bah oui, c'est ça.
Bien sûr. Alors, vous nous appelez, bien sûr, hein, les voisins, les voisines, où que vous soyez dans le monde, au 33 1 84 22 71 71, que vous soyez adolescent ou grand frère et parfois un peu estomaqué des comportements de vos petits frères ou de vos petites sœurs ou parents. Nous passons la parole à Chérifa qui est à Cotonou. Bonjour Chérifa.
Oui, bonjour.
Chérifa, vous avez 18 ans, c'est bien ça ?
Oui.
Et alors, c'est votre portable, c'est votre meilleur ami ?
Oui, moi, oui, c'est mon meilleur ami.
Oui, racontez-nous.
Bon, en Afrique surtout, nous n'avons pas l'occasion de discuter avec les parents.
Oui.
Surtout des sujets tabous.
Oui.
Comme le sexe, par exemple. Donc, nous nous recouvrons sur nous-mêmes et nous créons des groupes Facebook ou WhatsApp pour pouvoir discuter entre nous.
Entre vous, c'est-à-dire de la même génération. Parce que la discussion est plus compliquée avec vos parents sur ces sujets tabous, c'est bien ça ?
Oui.
Mais alors vous, par exemple, Chérifa, vous avez accès à du Wi-Fi facilement ? Vous pouvez, quelle est l'accessibilité de l'Internet sur votre téléphone portable ?
Oui, c'est du Wi-Fi.
D'accord. Vous avez du Wi-Fi à la maison aussi ?
Oui.
Et donc, que disent vos parents quand ils vous voient en permanence scotchés sur votre téléphone ?
Bon, le problème, c'est que, au fait, je ne laisse pas qu'on me voit souvent avec le portable.
Oui.
Donc, chez eux, c'est que je ne suis pas trop collée au portable.
Ah oui.
Donc, c'est surtout la nuit que je ne dors pas et je navigue.
Jusqu'à quelle heure vous pouvez être sur votre portable, Chérifa, la nuit ?
Bon, la nuit, moi, je ne dors pas, donc c'est jusqu'à l'aube.
Jusqu'à l'aube ? Donc vous ne dormez pas de la nuit ?
Oui. Oui.
Et vous dormez quand, sans indiscrétion ?
Bon, souvent, à 16h, je m'endors, et la nuit, je ne dors plus.
Donc à 16h, quand vous sortez de cours, c'est ça ? Vous êtes au lycée ?
Oui.
D'accord. Ah oui, alors évidemment, il faut récupérer à un moment donné. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Chérifa. Vous continuez de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Chérifa nous décrit quand même un monde assez fermé, bien pratique quand justement la discussion, le dialogue avec les parents est difficile sur des sujets tabous. C'est pas le cas en France en même temps, et pourtant... Et pourtant, le monde est aussi fermé.
Ça peut l'être aussi. C'est ça qui est très intéressant avec cet objet qui compile beaucoup de choses. C'est une fenêtre ouverte sur le monde. C'est un moyen de s'évader. Alors, ça peut être pour tuer l'ennui, mais aussi pour découvrir des choses. Et il y a certains tabous, en particulier à l'adolescence, qui sont assez prégnants, comme elle l'a très bien dit, autour du sexe. Certaines questions qui se posent et où on peut avoir des réponses. Et on peut s'ouvrir un petit peu à tout ça via ce tout petit écran qui tient dans une poche.
Oh, il ne faut pas surestimer la capacité, la possibilité de dialoguer avec ses parents. Donc.
Oui, et encore une fois, cette difficulté à communiquer avec ses parents, elle peut se manifester sous plusieurs formes. Je me souviens de cette prof d'espagnol d'un quartier populaire qui me disait « Ce téléphone, pour certaines jeunes filles des quartiers et des cités, c'est une vraie fenêtre de liberté. » Et c'est vrai que c'est une fenêtre de liberté. Elles écrivent même leurs devoirs sur leur téléphone parce qu'elles n'ont pas forcément d'ordinateur. Mmh. Elles peuvent quand même se prendre en photo entre copines, alors que chez elles, elles sont très surveillées. Et cette surveillance et cette difficulté de communication dans les quartiers populaires en France, elle existe. Elle est de plus en plus forte et elle enferme de plus en plus les jeunes filles. Et sans parler de cette spécificité, la communication parent-enfant à cet âge-là est très compliquée et elle l'a toujours été. Et cet outil, une fois, leur donne la parole.
Également parce que les parents sont aussi beaucoup sur leur ordinateur et sur leur smartphone. Donc on ne communique pas tant que ça, en fait. Il ne faut pas croire, y compris.
C'est notre grand conseil, ça. Oui. Communiquer avec ses adolescents, ses enfants.
Donc les parents doivent lâcher leur smartphone
aussi,
eux aussi.
Il
y a beaucoup de drague sur ces réseaux sociaux, sur ces applications. Et c'est aussi, quand même, une activité centrale chez les adolescents, la rencontre. Et puis, alors, Shaïfa nous parlait du sexe. C'est le porno aussi. Le porno qui est omniprésent. Vous citez des études, 80% des garçons, 45% des filles de 14 à 18 ans auraient déjà vu un film X via le smartphone. Premier visionnage vers 12 ans. Vous citez aussi une étude internationale qui dit que 20% des mineurs vont sur qui vont sur des sites porno ont moins de 10 ans.
C'est en fait... Plus on met un téléphone tôt dans la main des enfants, plus ils ont une connexion Internet tôt, et du coup, plus ils vont être confrontés tôt à des images pornographiques. Les dernières études montrent qu'il y a de plus en plus de premiers contacts avec des images pornographiques qui est involontaire. L'adolescent, l'enfant va vouloir regarder par exemple un film en streaming un peu piraté, et va tomber sur de la publicité pornographique assez tôt. Il n'y a rien qui va pouvoir l'empêcher. Il y a des filtres, il y a des logiciels qui vont essayer de le limiter. Mais là encore, il va falloir en parler pour... Il ne faut pas faire l'autruche par rapport à ça.
Les filtres, justement, sur les smartphones, c'est plus compliqué que sur l'ordinateur familial.
Ça existe aussi. Ça existe aussi. Il y a un marché qui se développe beaucoup là-dessus. Ça ne suffira jamais à endiguer tout ce qu'il y a. Internet est rempli de contenu pornographique. C'est un fait. Et il n'y aura aucun filtre qui permettra de protéger complètement son adolescent qui va avoir aussi à un moment une curiosité de ça, qui va vouloir aller voir pour pouvoir en discuter avec ses copains.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous passons la parole à Gilles, qui est dans le sud-est du Burkina Faso, à Gaoua. Bonjour Gilles.
Bonjour Emmanuel.
Alors Gilles, vous n'êtes pas adolescent, vous avez 34 ans. Je crois que vous n'avez pas d'enfant, c'est ça ?
Non, pas encore.
C'est ça, mais beaucoup de neveux, de très jeunes autour de vous.
Voilà, justement.
Alors, qu'est-ce que vous observez, vous ?
Bon, généralement, on observe... Je vais passer déjà sur un fait qui s'est passé directement. Bon, j'ai senti dans le comportement d'un de mes neveux, en fait, c'est une chose que j'ai jugée un peu insolite. Et là, j'ai fouillé dans son téléphone et j'ai trouvé qu'en réalité, il suivait beaucoup toutes les actualités pornographiques.
Vous avez fouillé vous avez fouillé dans son téléphone parce que vous étiez inquiet.
Oui, j'étais inquiet de son comportement parce que vivement, en fait, les adolescents, en fait, ils sont souvent prévisibles en réalité. Donc, il suffit juste d'observer. Quand on les observe, on se rend compte en fait qu'il y a du changement.
Ouais.
Donc du coup, il faut taper du pied sur la table. Tu lui dis, ramène ton téléphone, tu vois ce qu'il y a dans son téléphone et tout. Bon.
Votre neveu a quel âge, Gilles ?
Oui, il a 15 ans.
13 ans ? Ouais.
15 ans.
15, d'accord, il a 15 ans. Ouais, donc, bon. Mais alors vous, comment vous voyez les choses ? Quelles sont les solutions ? Vous dites qu'il faut taper du poing sur la table et dire il faut ouvrir le ventre du smartphone, finalement.
Oui, quand il le faut. Sinon, en réalité, la chose la plus importante à faire, parce que et comme notre sujet, l'intervenant, il a dit que c'est difficile, en réalité, même si on met des pare-feux, ça va être difficile de filtrer les choses, ça c'est clair. Ils ont toujours accès à ça. Mais l'important, c'est accompagner aujourd'hui les jeunes là-dedans, l'utilisation des smartphones. C'est-à-dire c'est ça. Il faudrait que les parents s'impliquent et ils s'impliquent beaucoup dedans. Les parents, les grands frères, oui.
Mais qu'est-ce que vous appelez s'impliquer? On peut pas demander à ses enfants d'être amis sur Facebook, par exemple. Ils ne l'accepteraient pas pour une partie. Et ça n'est pas forcément souhaitable.
Beaucoup n'accepteraient pas. C'est comme je dis, c'est essentiellement beaucoup communiquer avec les enfants sur l'utilisation du smartphone. Leur expliquer les avantages, il faut leur expliquer les avantages qu'ils peuvent avoir là-dessus, mais également les dangers qu'ils peuvent avoir. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui découvrent en réalité.
Oui, qui découvrent quoi, par exemple?
Les dangers, c'est-à-dire qu'ils découvrent, par exemple, les sites sur lesquels on peut vivre facilement des images pornographiques, des trucs comme ça, ils découvrent ça eux-mêmes. Ouais. Mais en réalité, je pense que s'il y a une communication avec entre parents et enfants, ou bien entre grand frère et petit frère, et qu'on les interpelle en fait sur les avantages qu'on a, qu'on peut avoir sur le net, à travers les réseaux sociaux, et aussi, qu'on discute aussi sur les inconvénients, en réalité, les dangers qui existent.
Eh bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Merci Gilles de nous avoir appelé pour nous faire partager parfois vos inquiétudes et puis les solutions que vous avancez.
Je rebondirai sur ce que vient de dire Gilles, qui est très intéressant. Effectivement, il faut s'impliquer et expliquer. Parce qu'on a parlé du porno qu'il y a sur Internet. On parle peut-être un peu moins des images très évocatrices parfois de parties génitales, hein, pour dire clairement les choses, que peuvent s'envoyer les adolescents entre eux. Par exemple, sur le réseau social Snapchat, il y a beaucoup de drague. On est dans une relation très intime puisqu'on ajoute une personne et on ne dialogue qu'avec elle. Ce n'est pas des dialogues de groupe. C'est forcément des gens qu'on connaît par leur pseudo. Et l'application incite à partager de l'image. Et au bout d'un moment, cette conversation qui peut être un peu de la drague va inciter à partager des images un peu intimes.
Donc ça dérape.
Et ça peut déraper assez vite. Et effectivement, là, comme disait très bien Gilles, il faut parler de l'avantage de pouvoir discuter avec l'inconvénient et le danger d'envoyer des images de soi un peu dénudées, des images qui peuvent après très vite circuler.
Oui, parce que Snapchat, au départ, c'était la spécificité, c'était l'autodestruction des messages, mais évidemment, les ados ont très vite pigé, ils savent tous le faire,
la capture
d'écran immédiate. Donc, mais pourquoi vous dites dans votre livre que Snapchat, c'est un monde opaque pour les parents, pour les adultes?
C'est une utilisation un peu complexe. C'est pas le réseau social le plus intuitif. Quand on est habitué à Facebook, c'est pas les mêmes réflexes. Au lieu de... C'est des logiques toutes simples. Au lieu de faire avec le pouce de haut en bas, comme on a plus l'habitude, là c'est plus de droite à gauche. C'est des logiques un peu particulières où quand on est sur un chat, le réseau social ne garde rien en mémoire. Du coup, c'est difficile de suivre une conversation. C'est des logiques un peu différentes.
Donc conversation assez décousue aussi, non?
Tous les adultes avec lesquels je parle me disent celui-là, j'y arrive pas. Celui-là, je ne comprends pas, j'ai pas le cerveau pour et je ne sais pas faire. Je suis complètement paumée. Et eux le savent. Et c'est pas pour rien aussi qu'ils l'utilisent beaucoup. Et puis c'est quelque chose de très ludique quand même. Alors ça peut conduire à des dérives, mais il y a toutes ces histoires de fils, de stickers, de fils qui changent tous les jours. Et ça attire les plus jeunes, les très jeunes. C'est-à-dire que dès le CM2, ils ont envie de se transformer en monstre vert ou en cracheur de feu.
Et puis la possibilité pour ces adolescents de créer vraiment, de feuilletonner leur propre vie finalement aussi, non?
C'est ça tout l'intérêt de Snapchat. Ça passe beaucoup via la story, mais aussi par des messages échangés qu'avec certains amis.
Alors ça ressemble à quoi une story sur Snapchat?
C'est un enchaînement de petits instants intimes qui peuvent être très anodins. Ouais, comme ce matin, j'ai mangé des céréales, à telle heure je suis arrivé au lycée, à telle heure j'en suis reparti, j'ai été au ciné avec telle personne. Ça peut être très anodin et en même temps c'est de l'histoire du quotidien, c'est comme ça qu'il l'écrit.
Mais ça peut aussi être très drôle.
Ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment un montage vidéo, enfin un montage d'image prise au cours de la journée qui résume le quotidien. Effectivement, on prend son bol de céréales pour dire que là, c'est le moment du petit déjeuner. On va y mettre quelques smileys, quelques emojis, quelques petits trucs rigolos. On fait évidemment énormément de selfies. On se raconte ce faisant. Donc, c'est un mini-film
de sa journée. Vous dites que ça vous a fasciné sociologiquement, créativement parlant, dans le fond. Parce que là, ce que vous racontez, on est guère convaincus.
Bah, c'est des vrais bidouilleurs. Rien que sur un plan technique, moi, je ne sais pas faire tout ce qu'ils font, c'est-à-dire de réécrire sur les photos, de faire ces petits bout à bout de photos de leur quotidien. C'est pas pour rien, regardez, que les émissions de télévision commencent à créer leur story. Alors, quotidien de Yann Barthès a sa story d'Éric et Quentin. Le cinéma s'inspire de plus en plus.
Ou les génériques d'émissions aussi. Cet art visuel.
C'est ça, finalement. Le générique du film Divine, du long métrage Divine, empruntait toute cette imagerie de Snapchat. L'affiche du dernier film de Guillaume Canet, réécrit comme ça sur la photo, redessine. Les adultes sont en train de leur repiquer leur code, en fait.
Ouais. Bon, alors en tout cas, il y a des auditeurs qui s'inquiètent sur Facebook et qui nous postent des messages. On en discute. Appelez-nous aussi au 33 84 22 71 71. Qu'y a-t-il dans le portable des adolescents ?
Sur les coudes, marche-t-il à l'envers, ou est-ce moi qui compte un repos? De quoi se fait ces fous, des girouettes en trombone, leurs lèvres se dédoublent sous le papier carbone. J'ai peur quand ils rient, je pleure quand ils jubilent, et la sueur sur leur front m'effraie. Puis partent en campagne en quête d'un Molière. Ils me noient sous leurs flots dans des vagues de sourires. Et comme Dalida dit, parole, parole, parole. J'ai peur quand ils rient, je pleure quand ils jubilent, et la sueur sur leur front m'effraie.
C'est Mess Parot chez 7 milliards de voisins. Et bien voilà, on essaie de sonder le ventre des portables, des téléphones portables des adolescents. On a des messages qui sont postés. Gaston Allomé nous dit qu'il y a trop d'applications, trop d'utilisation inutile du portable, donc moins de temps pour les études. Bref, il faut conscientiser la jeunesse sur l'utilisation du portable. Des messages inquiets. Hein. Barry à Dakar nous dit que les ados aujourd'hui communiquent avec le monde extérieur plus souvent qu'avec leurs parents. Ils nouent des relations, créent des liens, se font des amis virtuels. Oui, enfin, juste avant, Chérifa nous disait mais on est sur notre portable parce qu'on n'arrive pas à parler à nos parents, justement, surtout trop de sujets tabous, nous disait Chérifa à Cotonou. Alors peut-être, hein, les voisins, il faut savoir se remettre en question. Aurel à Libreville nous dit le pire, c'est que le smartphone affecte les relations avec nos proches, nous empêche d'étudier. Voilà, alors un jeune qui est lucide. Laurent à Dakar, contrôlons le smartphone de nos enfants pour mieux les éduquer. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Contrôler, pas contrôler, comment ?
Il faut pas... Ni être flic. Moi, je suis personnellement pas pour l'intrusion et la lecture des messages à l'intérieur du téléphone qui est vécu par beaucoup comme un viol. C'est vraiment leur... ils disent, c'est notre vie, c'est notre intimité, c'est notre monde. Donc, on n'y rentre pas comme on ne piquait pas la clé du cadenas du journal intime. Par contre, il faut en faire un vrai sujet de discussion. C'est-à-dire que il n'y a aucun tabou concernant ce téléphone, et il faut systématiser les discussions autour des pratiques. Il faut discuter à table de quelles sont les applis téléchargées, ce qu'on y fait, avec qui.
On cite l'exemple dans le livre de ce père de famille qui a instauré la soirée pizza du jeudi, où avec ses ados, ils se retrouvent et chacun va raconter un peu ce qu'il a vu sur les réseaux sociaux, d'une vidéo rigolote à quelque chose qui a pu le choquer et où chacun va se passer la parole. C'est vraiment ça, nous, qu'on essaie de porter comme message.
Instaurer un vrai temps d'échange un peu institutionnel, finalement, dans la famille.
Ce qu'on a vu dans ce livre, c'est les ados adorent en parler. Ils adorent partager ce qu'ils font, expliquer, puisqu'on est parfois un peu novice sur certaines pratiques. Ils adorent le raconter, le montrer. montrer des filtres Snapchat assez ludiques. Ils sont complètement fans de ça. Il faut vraiment s'y intéresser, comme on s'intéresse à un enfant de 5 ans qui rentre de l'école en lui demandant qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Il faut, pareil, demander...
Partager plutôt que de fliquer et ne pas penser que c'est leur monde intime et donc on n'en parle jamais.
Après, tout varie en fonction de l'âge. Un adolescent en 6e, c'est différent d'un adolescent en fin de lycée.
Ouais.
Il faut bien l'ajuster en fonction de ça aussi.
La première occupation, finalement, du téléphone aujourd'hui, c'est surtout de ne pas téléphoner, non ? Parce qu'on n'a absolument pas parlé du téléphone en tant que tel.
Oui, moi, en tant que mère de famille, quand j'avais résisté en 6e, je ne l'ai donné qu'en 5e à mon fils. Et quand j'essaye de le joindre par téléphone, il ne décroche jamais. Non seulement il ne décroche jamais aux appels, mais il n'écoute évidemment jamais les messages vocaux. Donc il faut aussi être un peu astucieux en tant que parent et adopter leur propre code. C'est-à-dire que généralement, moi, je l'appelle, il ne me répond pas. Je lui envoie un SMS une fois sur deux, il ne me répond pas. Donc après, je lui envoie un message sur WhatsApp. Là, parfois, il réagit. Et si vraiment j'ai pas de réaction au bout, je lui envoie un snap. Et là, il est piégé. Et il se dit quand même, ma mère s'y est mise, on lui doit ça.
Il y a des jeunes dans votre livre qui disent, ah non, mais le téléphone, c'est pour les vieux. Il y a que les vieux qui nous appellent. C'est-à-dire les vieux, les parents, les grands-parents.
C'est ça. Hein ? Il y a une logique. Le coup de bigot, c'est vraiment pour les vieux. Les jeunes passent par l'écrit, par le SMS, par WhatsApp, par Messenger, etc. C'est vraiment une génération, nous c'est ce qu'on constate, certains évidemment téléphonent, mais c'est une génération qui passe beaucoup par l'écrit. Mmh. Et un écrit, le langage SMS a vraiment perdu du poids, maintenant c'est un écrit aussi sans faute d'orthographe. Il ne faut pas croire que c'est des décérébrés, ils écrivent plutôt bien.
Alors, les ados aussi, vous dites-vous, ne sont pas si tête brûlée qu'on le dit. Ils sont quand même assez conscients des dangers. Il se passe vite le mot. Il y a d'ailleurs des applis qui ont complètement fait faillite, justement parce que l'anonymat qu'elles permettaient avait déchaîné des formes de harcèlement, etc. Ils sont plus prudents qu'on ne le pense ?
Ils sont beaucoup plus prudents et beaucoup plus informés qu'on ne le pense. De plus en plus, en cours, de toute façon, ils voient les risques pour la vie privée. Mais il y avait vous parlez de cette appli qui s'appelait AskFM, qui a cartonné, ou Gossip, un petit peu avant, qui était basée sur l'anonymat et qui lançait beaucoup de rumeurs dans les établissements. Les adolescents en sont vite revenus au point de se dire, dès que c'est anonyme, c'est pas bon, ça se déchaîne complètement. Et ça vire vite au harcèlement.
D'ailleurs, même sur Ask, il y avait la possibilité de... Moi, je l'ai vu, j'ai demandé ça à mon fils de me montrer une page Ask, parce que pour le coup, ça m'effrayait.
Et il y avait qui a fait faillite depuis, qui
n'existe
plus.
Mais il y avait la possibilité de décocher, en fait. Vous receviez des messages anonymes d'un interlocuteur, et à un moment, les ados d'eux-mêmes disaient « décocher ». Je vous invite à décocher la case anonyme pour savoir qui vous êtes, parce que ça me dérange. Et en fait, ils n'aiment pas les anonymes, ils n'aiment pas les étrangers, et ils ont retenu la consigne, on ne parle pas au monsieur dans la rue. Et ben, c'est un peu la même chose sur les réseaux sociaux, ça ils ont intégré. Alors pas tous, ils prennent encore des risques, ils postent encore des photos qu'ils ne devraient pas poster, mais l'étranger leur fait peur.
Ouais, alors il faut dire aussi qu'il y a de la prévention de plus en plus dans les établissements scolaires, hein, et c'est souhaitable. Au collège, dit un jeune, Pierre, 12 ans, nous dit « Au collège, quelqu'un est venu nous parler d'informatique et nous a expliqué qu'Instagram peut vendre nos photos. Certaines représentent des gens couverts de boutons et elles ont été vendues pour des pubs de produits anti-acné. Moi, j'ai tout enlevé, j'ai fermé mon compte. »
Ils sont inquiets de ça, effectivement. Ils sont inquiets de comment va être utilisée leur image. Je pense que c'est l'une des clés du succès de Snapchat. C'est que les images, on les envoie globalement qu'à une seule personne. Et ça va rester dans un petit cercle entre pairs. Ça ne va pas être public et accessible à tous.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui des adolescents, malgré les chiffres écrasants de possession de portables, qui affichent, qui assument leur déconnexion ? Voire même ce snobisme du vieux portable à 10 euros.
C'est rare, c'est très très rare.
Autant se tirer une balle dans le pied,
c'est
ça.
On en a trouvé un ou deux. C'est très très rare. Après, dans cette démarche, il y a aussi une démarche de différenciation. On est dans de l'adolescence, il y a toujours une volonté d'être cool, de paraître cool, d'être populaire. Et pour se distinguer du groupe, peut-être que parfois il faut ne pas avoir de portable et ne pas avoir de réseaux sociaux.
Ceux que j'ai rencontrés, moi, étaient plutôt possédaient des portables, mais n'étaient pas sur les réseaux sociaux. Et volontairement ne voulaient pas y être, mais ils étaient vraiment minoritaires.
Alors, jusqu'où ira l'ultra-connexion ? Est-ce qu'on va atteindre un palier ?
On a déjà une génération, peut-être la première génération d'ados complètement et constamment, c'est ça qui est important aussi, connectés. Je pense que le paillon l'a déjà atteint, puisqu'ils sont déjà tous connectés.
Oui, donc les journées ne pouvant pas être allongées au-delà de 24 heures, et ben finalement, et qu'il faut c'est quand même certain. Dormir un peu. Enfin bon, Chérifa qui dort que 3 ouais. heures par jour, si j'ai bien compris. Alors, quelques conseils tout de même pour les parents et les grands frères qui veulent essayer de protéger leurs enfants, les jeunes dans la famille.
Alors, on a beaucoup dit qu'il faut en parler. Mm-hmm. Nous, on pousse
un couvre-feu pour la nuit.
Voilà, on ouais. pousse beaucoup ce conseil-là de... Attention au sommeil, de... comme l'ennui est un peu tué par le portable, c'est le réflexe assez facile de combler chaque instant. Le soir, les adolescents ont souvent du mal à s'endormir. Et le réflexe, à nouveau, va être de prendre le portable avec cet écran et cette lumière bleue qui va tenir en éveil et qui va du coup créer des troubles du sommeil, troubles du sommeil qui s'accompagnent, mais ça de manière beaucoup plus classique et... Ouais. Non lié au portable, de troubles alimentaires, de difficultés à se concentrer, etc.
Et puis, apprendre à bloquer les indésirables et également, tu ne te déshabilles pas sur Facebook.
Sur ça Facebook
peut
et autres.
Sembler évident, mais pas forcément. Merci à tous les deux, Céline Cabour et Boris Mananti. Vous publiez Portable, la face cachée des ados chez Flammarion Enquête. Merci à vous aussi, les voisins et les voisines, pour vos messages, pour vos appels. Et à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néron, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Demain, 7 milliards de voisins, c'est la période des dossiers d'inscription pour ceux qui veulent partir étudier en France. Alors que la concurrence du Canada francophone s'annonce rude aussi, la France vous semble-t-elle toujours une destination intéressante? Visa, niveau d'études, université? On va répondre à toutes vos questions et bien sûr vos témoignages nous intéressent au 33 1 84 22 71 71. À demain. RFI Talent.